Radio Okapi.
Le journal Grâce à Mzati.
Reprise des combats ce dimanche entre les rebelles du M23 et les Wazalendo à Nyamilima, groupement de Binza dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Nos sources sur place affirment que le M23 tente visiblement de progresser pour conquérir la cité frontalière d'Ishasha, à la limite avec l'Ouganda, mais aussi la localité de Nyakakoma, au bord du lac Edoua. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa propose un budget de plus de 10 milliards de dollars américains dans son programme quinquennal. Daniel Bumba l'a fait savoir ce samedi à l'occasion de l'investiture de son gouvernement au cours d'une plénière convoquée en session extraordinaire. L'invité de ce journal est le docteur Michel Mouvoudi, écrivain et formateur. Il parle de la formation sur le leadership et le développement organisée à Bukavu par l'ASBL Kesho Congo en faveur des 250 jeunes de cette ville. Voilà tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour. Au nord Kivu, les combats ont repris ce dimanche matin entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans l'agglomération de Nyamilima, groupement de Binza dans les territoires du Rutshuru. Selon diverses sources locales, le M23 tente visiblement de progresser pour conquérir la cité frontalière de Ishasha, à la limite avec l'Ouganda, en même temps que la localité de Nyakakoma au bord du lac Édouard, et avoir ainsi le contrôle et l'accès total à tout le groupement de Binza. Vendredi et samedi, plusieurs localités de ces groupements sont passées sous occupation des rebelles. À Goma, Denis Lukeso.
C'est vers 10 heures locales que ces affrontements ont éclaté entre les rebelles et les Wazalendo dans les villages de Buganza. C'est là après l'occupation sans combat hier samedi par les rebelles de la cité stratégique de Nyamilima. Selon des sources à Nyamilima, les rebelles ont débordé pour conquérir en vain Buganza où se seraient repliés les Wazalendo. Les rebelles auraient fait face à la résistance des Wazalendo qui ont reçu du renfort venu de Ishasha. À la cité frontalière de Ishasha, on constate une accalmie relative. Cependant, les agents des services de l'ordre ainsi que ceux de l'État ont traversé la frontière ougandaise hier lors de la prise de Nyamilima. Un acteur de la société civile, joint ce matin, parlait d'environ 10% de la population d'Ishasha qui aurait vidé la cité pour se mettre à l'abri.
Je suis tout juste ici à côté, à la frontière Ishasha-Ouganda. Pour le moment, la population, c'est ça, est peu calme. Il y en a au moins 10% de la population qui a traversé vers l'Ouganda. Les agents du gouvernement, la police, les agents de renseignement, tous sont déjà de l'autre côté.
Des sources concordantes à Nyamilima affirment le retour progressif depuis ce matin des habitants de Kisharo, Kisegourou et Katugourou, des villages qui sont toujours sous occupation du M23. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Restons au nord Kivu, où l'organisation philanthropique Provide in Action déplore le blocage de l'aide humanitaire dans les entrepôts de la DGDA à Goma. D'après cette organisation, environ 39 tonnes d'assistance alimentaire destinées aux déplacés seraient bloquées dans l'entrepôt de la DGDA depuis un mois maintenant. Le responsable de cette structure plaide auprès des autorités pour assouplir les démarches d'exonération pour ce genre d'action afin de bénéficier des traitements en mode d'urgence, cela au profit des déplacés. Ananias Kahamba, fondateur de l'organisation Provide in Action, explique au micro de Denise Lukeso.
Depuis janvier, nous avions commencé déjà une série de réponses humanitaires en termes alimentaires. On amène des cargaisons de vivres chaque mois, 39 tonnes de vivres. Alors nous sommes sidérés de voir que la dernière cargaison qui est arrivée, et là ça fait déjà un mois que ça bloque dans les entrepôts de la DGDA parce que Kinshasa n'a pas envoyé les messages fournis. Donc comme vous savez, nous sommes dans une trêve humanitaire, donc les aides humanitaires devaient bénéficier d'un traitement à mode d'urgence. Cette fois-là, le mode d'urgence n'a pas été respecté, au risque d'être périssable. Pourtant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim dans les camps de déplacés. Faisons un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'ils puissent assouplir les démarches pour la documentation liée aux exonérations de tous les partenaires qui sont en train de venir en aide auprès de ces déplacés, mais aussi que l'aide humanitaire bénéficie des traitements à mode d'urgence parce qu'il vient répondre à un besoin urgent.
Nous n'avons pas pu obtenir jusqu'à présent la réaction de la DGDA. Justement, il est connu de tous que l'insécurité récurrente a fait de l'Est de la RDC un terreau fertile à la crise humanitaire. les médias sont appelés à accompagner les humanitaires dans leurs interventions. C'est ainsi que le Programme alimentaire mondial, au cours d'un échange avec une trentaine de journalistes du Grand Nord Kivu ce samedi, exhorte ces derniers à cet accompagnement. Les professionnels des médias ont pour cela été briefés sur les actions du PAM dans la région. Selon Claude Kalinga, chargé des communications du PAM en RDC, la méconnaissance du travail des humanitaires par les communautés est à la base de la désinformation sur leurs activités. Et les humanitaires en sont parfois victimes dans l'exercice de leur travail. D'où l'importance de l'accompagnement des médias locaux. Claude Kalinga le dit à Guylaine Kassassia.
Les médias qui sont suivis de plusieurs personnes, on avait besoin de vous pour que vous sachiez plus exactement quelles sont les activités que le PAM mène dans la zone, en faveur de qui et comment vous, le média, vous soyez en mesure de nous accompagner dans cette œuvre humanitaire que nous sommes en train de mener. Aussi, vous savez que dans un environnement comme celui-ci, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, notamment dans les réseaux sociaux. Il y a la désinformation. Et il était temps pour qu'ensemble nous mettions en place des mécanismes pour pouvoir contrer, barrer la route à ces rumeurs, qui fait plusieurs victimes, même parmi les médias. Nous avons dernièrement eu à déplorer ce qui s'est passé à Lubero, où les humanitaires ont été attaqués. Et aujourd'hui, dans cette zone, les humanitaires n'ont plus accès. La situation est devenue très difficile sur le terrain. Raison pour laquelle il faut que les médias comprennent, sachent, accompagnent les humanitaires dans le travail qu'ils sont en train de faire en faveur des personnes les plus touchées. Le PAM se trouve aujourd'hui vraiment en difficulté suite à l'insécurité. Donc, la trêve n'a pas vraiment servi au PAM.
Par ailleurs, le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental invite les habitants du territoire de Katanda à cultiver la paix. Jean-Paul Mbwebwa Kapo l'a dit vendredi au cours de la commémoration du génocide à la mairie de Mbujimayi. Le gouverneur indique qu'à cause des tueries suite au conflit intercommunautaire, les terres arables restent toujours non exploitées, ce qui entraîne la malnutrition au sein de la population. Jean-Paul Mbwebwa Kapo, gouverneur du Kasaï-Oriental, au micro d'Esterne Dalafina.
Efforcez-vous de rester ensemble. Regardez, par rapport à la guerre qu'on nous a imposée, il y a beaucoup d'argent que le pays débloque pour mettre fin à cette guerre. Lorsque vous ne voulez pas cohabiter, vous vous tuez mutuellement. Notre territoire de Katanda ne peut pas se développer. Restez ensemble comme les enfants d'un même père et d'une même mère. Dialoguez pour trouver des voies et moyens pour mettre fin au conflit. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent à Katanda. Nous vous demandons de vivre ensemble. Si Dieu ne vous a pas créé à Katanda, quelle terre allez-vous vous disputer? Les terres arables sont arrosées par le sang de vos frères. Sachez que vous êtes un. Apprenez à vivre ensemble. J'en profite également pour demander à toute la population de la RDC de réfléchir sur la protection de notre pays. Je suis sûr et certain que ce pays ne sera pas balkanisé.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix, investiture ce samedi du gouvernement provincial de Kinshasa, c'était au cours d'une plénière convoquée en session extraordinaire. Dans son programme quinquennal, Daniel Bumba propose un budget de plus de 10 milliards de dollars américains. Par ailleurs, son gouvernement est composé de 10 membres qui vont assurer la gestion de la ville. On écoute un extrait du discours au programme du gouverneur Daniel Bumba au micro d'Étienne Lissumbu.
Le programme j'ai l'honneur de vous présenter ce jour est en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source des engagements majeurs ainsi que des trois initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central. À cet égard, notre programme dénommé Kinshasa et Zobonga est structuré en cinq chapitres qui se présentent de la manière suivante. 1. État des lieux. 2. Orientation stratégique. 3. Axe de gouvernance. 4. Cadre macroéconomique et financement. 5. Mécanisme de mise en œuvre et suivi évaluation. Concernant l'état des lieux, la ville de Kinshasa, capitale et siège d'institution de la République, fait face à de nombreux problèmes suivants. L'emploi, surtout des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, la voirie et la mobilité, la gouvernance financière et administrative, l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat, l'éducation et la santé, les infrastructures de base relatives au transport, à l'eau et à l'électricité.
En réaction, les députés provinciaux de Kinshasa jugent réaliste le programme du gouverneur Daniel Bumba. Toutefois, il formule quelques recommandations au gouverneur pour mener à bien son mandat. Il s'agit notamment de prendre à bras le corps les questions de salubrité et de sécurité. Étienne Lusumbu nous en parle.
Dans la suite des recommandations, les députés provinciaux de Kinshasa invitent Daniel Bumba à faire preuve de beaucoup de volonté pour changer les choses. L'un d'eux, Nicolas Wemakoy.
Il y a un sérieux problème d'érosion. C'est une commune érosive et il va falloir que le gouvernement puisse avoir une bonne politique d'urbanisme et d'habitat.
Le député provincial Steve Moulumba, quant à lui, souhaite que le gouvernement prenne en compte les observations faites par les députés provinciaux.
Je crois que vous avez été là, vous avez écouté, vous avez vu les préoccupations qu'ont soulevées les députés provinciaux. Je suis sûr et certain que le gouverneur et son équipe ne va pas se botter cela en touche, il va prendre tout ça en compte pour pouvoir les mettre en application.
Les élus de Kinshasa souhaitent vivement que le gouverneur puisse réellement mettre en œuvre son ambitieux programme.
Étienne Lissoumbou sur la fréquence de la paix. Pendant ce temps, des ONG des droits de l'homme réunies au sein de l'Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa recommandent au gouvernement sous-minois de financer dans un bref délai l'organisation des élections des bourgmestres des communes dans la suite logique du processus électoral en cours. Cette structure a fait cette recommandation hier lors de sa plénière tenue au quartier Kingaboa dans la commune de Limété. L'un des cadres de cette assemblée, Bertin Kaninda Chiyoyo, explique que la tenue de ce scrutin va débloquer la gestion au niveau de la base et permettre à la province de faire face aux défis. Il appelle cependant les Congolais à participer à la gestion de la chose publique en interagissant avec les conseillers communaux. Bertin Kaninda Chiyoyo l'a dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous étions là pour expliquer la gouvernance participative. Comment est-ce que la population doit participer pour le bien de leur communauté? Comme maintenant il y a la présence des conseillers communaux, comment ils peuvent interagir avec ces conseillers communaux pour booster le développement de leur quartier ou de leur commune? 9 mois après, nous avons vu que rien ne marche et maintenant nous avons cherché à savoir pourquoi la population ne s'implique pas pour booster le développement de leur quartier ou de leur commune. Nous avons relevé ces défis pour voir qu'il y a un blocage au niveau des conseillers communaux, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas le temps de travailler et surtout qu'ils sont avec les bourgmestres nommés. Donc ces bourgmestres nommés font obstacle aux conseillers communaux de travailler. C'est ce que la population est en train de demander, qu'il y ait les élections de bourgmestres. En tout cas, en ce moment-là, ils auront des comptes à rendre à la population. Il faut aller jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça ne demande presque rien pour que ces conseillers communaux puissent élire les bourgmestres. Nous voulons travailler, mais dans la main pour enfin booster nos communes d'aller de l'avant.
Notons que la plénière de l'Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa était axée sur le thème gouvernance participative. Santé dans cette édition. 66 000 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans sont attendus pour la vaccination contre la rougeole dans la zone de santé de Mandima, dans les territoires de Mamba Sanusso Manitouri. Cette campagne qui a débuté cette semaine est initiée par la Division provinciale de la santé avec l'appui de l'ONG Médecins d'Afrique. C'est au regard de la dangerosité de cette maladie qui a coûté la vie à une centaine d'enfants. Le médecin chef de zone invite les parents à apprêter leurs enfants dans les sites de vaccination pour tenter de contenir cette maladie mortelle. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
18 aires de santé dont Mandima, Makeke, Teturi, Biakato et Bela sont prévues pour recevoir les sites de vaccination contre la rougeole dans la zone de santé de Mandima dans le territoire de Mambasa. C'est pour lutter contre la propagation de cette maladie dans ces entités qui ont connu des exactions des rebelles des ADEF et des groupes Mai Mai que les autorités sanitaires ont initié une campagne de riposte. Job Bakwata, médecin chef des zones de santé de Mandima.
Nos parents, qu'ils puissent profiter de cette énième occasion pour faire vacciner nos enfants. L'année passée, on avait plus de 1000 cas notifiés. L'année passée, il y avait vraiment une forte acuité de la maladie. C'est ça ce qui a fait que nous avions eu au moins 2 campagnes. Mais malheureusement, cette année, on a encore eu à notifier encore des cas.
Pour sa part, le délégué de l'ONG Médecins d'Afrique indique que cette action est une réponse d'urgence aux multiples besoins pour cette catégorie de personnes affectées par la crise sécuritaire qui perdure dans la région et qui met en péril la vie des milliers d'enfants.
C'est un projet d'urgence mis en place pour les personnes affectées par les tueries des ADEF. Le but est de ne laisser aucun enfant souffrir de cette maladie.
Les autorités et chefs coutumiers locaux qui ont pris part à cette cérémonie appellent les parents à préparer leurs enfants pour recevoir ces vaccins. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a été intransigeant. Noté, il a convoqué samedi 3 août L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une vidéo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner dans le nord du pays et qui a causé de lourdes pertes. Les nouvelles autorités sénégalaises, depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en avril dernier, ont ainsi voulu affirmer leur position de neutralité constructive.
L'invité.
On a du potentiel et ce potentiel est fait pour être amélioré. Cette dimension de s'améliorer afin d'être capable de devenir rentable et d'impacter les autres. C'est le message essentiel de la formation sur le leadership et le développement personnel qui se tient à Bukavu. Initiative de l'ASBL Kesho Congo en faveur des 250 jeunes de Bukavu. Objectif, susciter l'engagement de la jeunesse à transformer la vie de la société, impacter les autres et investir dans les générations futures. Docteur Michel Mouvoudi, écrivain et formateur, s'entretient à ces sujets avec Rachel Kessembango.
Docteur Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi former les jeunes sur le leadership et le développement personnel? Et pour commencer, c'est quoi le développement personnel?
C'est quoi le développement personnel? Mais j'aime bien rigoler, c'est le développement personnel. C'est simplement prendre conscience qu'on est un être humain et donc qu'on a du potentiel. Ce potentiel est fait pour être amélioré. Et donc, le développement personnel, je le résume dans ces dimensions qu'il vous faut pour pouvoir vous améliorer afin d'être capable, premièrement, de devenir rentable vous-même, mais aussi d'impacter les autres. Mais j'ai ciblé principalement les jeunes au vu de la tendance mondiale, notamment qui montre que, prenez des continents comme l'Afrique, des pays comme la RDC, les jeunes vont devenir prépondérants. Ça veut dire les jeunes vont être la moitié de la population africaine. En République démocratique du Congo, les jeunes vont représenter entre 55 et 60 %. Et donc, c'est une masse qui peut faire bouger les lignes en matière de développement. De l'autre côté aussi, ce que j'ai vu durant les 10 dernières années, c'est qu'en fait, on assiste quand même à une émergence d'une jeunesse qui n'a pas encore pris conscience qu'en fait, elle est la clé du développement de ce pays.
3 jours suffisent-ils pour former sur le leadership et sur le développement personnel? Quels résultats vous attendez de ces jeunes?
3 jours, évidemment, non. Cette formation, c'est le début. J'ai expliqué d'abord le concept de base. J'ai dû réveiller la conscience. J'ai révolté les jeunes. Et ce que j'ai compris, c'est que les gens m'ont dit à la sortie, franchement, après cette formation, on se réalise qu'on a perdu du temps. On se réalise qu'on peut aussi devenir des hommes, des femmes capables de changer notre société, notre écosystème. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, tout développement est un processus. Vous n'allez jamais voir un développement qui se fait au tic au tac. C'est un processus, mais qu'il faut maintenir, dans lequel vous devez jouer un rôle. Ça veut dire qu'il faut maintenant définir ce qu'on veut devenir. Il faut fixer des objectifs. Il faut investir en soi à travers notamment la formation. Mais le processus de développement va être un processus ad vitam. C'est toute la vie qu'on va continuer à gravir escalier après escalier. Ce que j'attends, c'est que justement qu'il y ait de la transformation. Rappelez-vous que quand j'ai introduit cette formation, j'ai parlé des économies positives. En fait, les économies positives, c'est avoir des personnes qui commencent d'abord à se transformer, mais qui impactent les autres. Ce que j'attends, moi, c'est demain avoir des jeunes au sud Kivu, qui commencent d'abord à changer totalement leur mode de vie, qui commencent à participer à l'amélioration de la vie collective, mais ces jeunes aussi, sur qui on peut compter pour dire, écoutez, au sud Kivu, quand vous allez retrouver la création des richesses, les jeunes sont au cœur. Et ça, pour moi, c'est fondamental si nous voulons voir notre pays changer.
Docteur, comment ces jeunes doivent-ils quitter de la théorie à la pratique, c'est-à-dire, quelles stratégies doivent-ils mettre en place pour arriver à atteindre le leadership et aussi se développer personnellement?
Il y a 4 stratégies. La première stratégie, c'est il faut absolument taper sur un point qui est clair, pousser les jeunes à avoir une vision. On ne peut pas s'engager aujourd'hui à avancer sur un chemin quand on ne sait pas où on va. Ne change, n'avance que ceux-là qui savent où ils sont en train d'aller. Recréer la vision dans les jeunes. Montrez-leur qu'il faut dire ce que vous allez devenir, il faut dire ce que vous allez être dans chaque domaine. La deuxième stratégie, il faut taper fortement sur la confiance en soi. Les jeunes doivent comprendre qu'en fait, il n'existe pas pour rien. Il y a une raison qui fonde l'existence de tout un être humain. Il y a une raison pour laquelle vous existez sous cette terre. Et donc, pour arriver à croire en vous, pour arriver à affronter, ce que je veux vous dire, j'existe aussi pour devenir. J'existe aussi pour rendre. J'existe aussi pour transformer. Le troisième élément, c'est finalement cette question de se dire par où je commence. Tout le monde veut commencer parce qu'on a donné. Mais je suis revenu sur des exemples vivants en disant, vous êtes le fond de démarrage, vous êtes le potentiel de départ. Attention, c'est bien beau de dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, pour que les gens se développent? Il n'y a rien à faire pour les jeunes. Il y a à dire aux jeunes, vous êtes le potentiel, vous êtes le capital dans lequel vous devez vous-même investir pour avancer. Et quatrième dimension, ce sont les valeurs. Je suis revenu beaucoup sur les valeurs parce que il ne suffit pas de dire, oui, je vais gagner, je connais comment il faut créer une entreprise, je connais comment je peux me former. Mais ce qui développe, madame, un pays, ce ne sont pas seulement les intelligences. Je crois beaucoup aux intelligences. Mais par contre, ce qui va vous pousser à aider les autres, ce qui va vous pousser à construire pour les autres, ce sont les valeurs. Je suis parti de l'intelligence émotionnelle, en passant sur des compétences, notamment l'empathie, notamment les traits de caractère du leadership, notamment l'intégrité, l'honnêteté, le sacrifice de soi, la fidélité, ce sont des traits de caractère. Mais pour moi, ce sont des valeurs sur lesquelles la jeunesse actuelle doit baser son avenir et doit mettre son paradigme de développement.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, Dr. Michel Mouvoudi, répondait aux questions de Rachel Kessembangou. Voilà qui met fin à ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. Mimi Kindou a assuré la mise en onde. Merci pour votre confiance et place au magazine des sports avec Vanessa Nkongolo.